du coq à l'âne.
Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles aussi par la même occasion, bonjour, bon dimanche, bienvenue dans le coq à l'âne pour ce numéro 613 avec Michel Roussel autour de la table. Salut Mimi.
Bonjour.
Nous avons Bruno André.
Bonjour.
Salut Bruno. Nous avons Jean-Claude Hérault qui est là.
Bonjour, bonjour.
Salut Jean-Claude. Et notre invité, c'est Jean-Michel Arnaud.
Bonjour.
Salut Jean-Michel, on se fait coucou par...
Jean-Mimi.
Voilà, c'était une petite photo qui faisait... Non, c'est une petite vidéo.
Un petit selfie.
Un petit selfie, voilà. Bonjour Jean-Michel. heureux de t'avoir parmi nous, voilà. On va démarrer direct, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, en parlant du grand débat, puisque j'ai cru comprendre que les contributions avaient été déposées par les maires à la préfecture. Et donc, comme tu es maire de Tallard, je suppose que tu as fait ce devoir, tu as été déposer les contributions.
Oui, mais on a été reçu cet après-midi par...
On est jeudi. On enregistre, on est dimanche matin, mais on enregistre, on est jeudi soir, on est le jeudi 21 février. Donc toi, tu as remis ça aujourd'hui?
Absolument, cet après-midi, en présence de la préfète des Hautes-Alpes et d'une dizaine de maires, on a remis une centaine de cahiers de doléances. Cahiers de doléances qui ont été ouverts par un grand nombre de collègues dans leur mairie. Et ce que je retiens de ce cahier de doléances, c'est essentiellement des messages forts sur la fiscalité, sur... la rémunération du travail et sur les problématiques des retraités. Et puis aussi, parce qu'on a été contributeur, beaucoup de maires l'ont été, sur les problématiques d'organisation des collectivités locales.
D'accord, ok. Tu n'étais pas très chaud quand même, si je me souviens bien. Au départ, avec cette histoire de grand débat, je t'ai senti quand même un peu froid même, carrément froid, glacial, avec notre président en disant « hop, c'est bien gentil, hein, on nous a mis sur la touche pendant un an et demi, et puis maintenant on nous demande de partir au boulot ». Grosso modo, c'était ça.
Je n'ai pas changé d'avis. En fait, ce que nous avons fait majoritairement, puisqu'on a eu un grand débat au sein de l'Association des maires des Hautes-Alpes, c'est de savoir si on s'engageait sur les réunions publiques, dans le cadre du débat, sur les problématiques de cahier de doléances, ou pas. Donc nous avons laissé la liberté à tous les maires, naturellement, de décider ce qu'ils jugeaient utile de faire dans leur collectivité. Et pour ce qui me concerne, j'ai mis à disposition, au tout début de la séquence des Gilets jaunes, au mois de décembre, la salle polyvalente à celles et ceux qui le demandaient. J'ai ouvert rapidement un cahier de doléances pour que les populations qui souhaitaient s'exprimer puissent le faire. Et j'ai décidé de ne pas organiser de débat, parce que je considérais que nous, en tant que collectivité locale, nous n'avions pas à organiser des débats dans un cadre qui est défini par le président de la République, par l'exécutif, et surtout générer éventuellement des attentes ou des inquiétudes de la part de nos concitoyens sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. La CSG, la fiscalité, les problèmes budgétaires, ce ne sont pas des sujets des collectivités locales.
Pourtant, le président a dit à Jean-Michel, le grand débat, j'aimerais que tu fasses le grand débat. Bon, il n'a pas voulu, mais bon.
En fait, ils ont eu un grand débat pour savoir s'ils faisaient le grand débat. J'ai bien compris, c'est ça.
Vas-y,
Bruno. Moi, ce qui m'a impressionné, ce que je n'ai pas bien compris de la part de Macron, c'est qu'il a boycotté votre congrès national des maires, il a refusé d'y aller, et après les premiers samedis jaunes, il s'est tout de suite tourné vers vous en vous disant « Bon, on va ouvrir, il faut qu'il y ait un grand débat national, il faut que les maires s'impliquent là-dedans et tout », alors qu'il les avait complètement boycottés.
Errare humanum est.
Et voilà.
Errare humanum est.
Et je te dirais que c'est pareil pour le monde associatif.
Bien sûr.
J'allais
représenter.
J'allais venir parce que je sais que Jean-Claude en a déjà parlé. C'est comme... Tous les corps intermédiaires, il les a squeezés depuis le début de son mandat. Alors, il est en train de faire machine arrière, il est en train de reprendre un peu contact avec tous les corps intermédiaires. Mais les élus de proximité que sont les maires, les corps intermédiaires et tout, ça prouve bien que ce sont des gens dont on ne peut pas se passer. Ce sont des gens de terrain.
Oui, moi, ce que je crois, de toute façon, c'est que qu'il y ait un moment ou un autre... un moyen, une méthode pour sortir de la situation quand même extrêmement compliquée dans laquelle était le pays, c'était nécessaire. Qu'on pose le grand débat, moi je pense que c'est insuffisant, mais en tous les cas, je ne suis pas là pour être dans la critique systématique des décisions qui sont quand même des décisions qui conservent un espace républicain entre nous, c'est quand même important. Après, la vraie question, c'est de savoir quel sera le résultat.
Alors,
c'est là-dessus qu'on attend.
Justement.
Parce que notamment pour les collectivités locales, je fais bref, on a un certain nombre de revendications. Une très simple, c'est une revendication qui n'est pas très coûteuse. C'est le dialogue.
Oui.
Donc, c'est d'ouvrir un nouvel acte de décentralisation et traiter quelques sujets qui nous sont chers. La question de la fiscalité, parce que sans fiscalité, notamment la taxe d'habitation, on ne peut pas mettre en place des services publics locaux. C'est la question de la liberté locale du choix des compétences, par exemple la compétence eau, qui est évidemment un élément stratégique. Et sur ces sujets-là, on nous dit grand débat. Très bien, le grand débat finit le 15 mars.
Tu veux revenir sur la loi NOTRe, en fait.
Oui, oui, en partie. Et j'attends, après le 15 mars, des propositions. Est-ce que ça sera un référendum? Est-ce que ça sera un grand débat thématique? Est-ce que ça sera un nouveau Grenelle de je ne sais quoi? Nous sommes ouverts au dialogue. Tout à l'heure, le journaliste m'a posé la question, est-ce que vous avez confiance au président de la République? J'ai répondu, j'ai le devoir de faire confiance au président de la République. Et nous analyserons la situation aux actes et aux propositions. Et ensuite, à leur mise en œuvre, parce que c'est surtout ça qui est important pour nos concitoyens.
Un mot, Michel.
C'est vrai que le grand débat, sur le principe, c'est plutôt une bonne idée. Il a essayé de désamorcer un petit peu, de calmer le jeu. Après, les craintes, on les a déjà évoquées. C'est effectivement le résultat. Quels vont être réellement les critères qui vont être retenus et qui seront profitables, je dirais, à la situation? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Après, comme Jean-Michel l'a évoqué tout de suite, il y a des éléments bien plus précis pour les collectivités locales. Est-ce qu'il va y avoir une mutation? Est-ce qu'il va y avoir, un bouleversement? On n'en sait rien aujourd'hui. Ça va... J'avoue que la situation, elle est très... c'est un petit peu opaque, globalement. Mmh. Et l'incertitude, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est effectivement que quand il a lancé son grand débat, je pense que sous le coude, il avait déjà les réponses.
Bon, alors toi, tu fais pas un procès d'intention, mais pas loin quand même.
Pas loin, mais je reconnais que c'est très bien, c'est démocratique,
ouais.
Même si derrière... Par contre, le phénomène d'avoir un sentiment de frustration par le plus grand nombre des Français risque de se faire ressentir à ce moment-là,
d'accord.
À l'issue de ce qu'il va énoncer.
Rendez-vous dans
c'est
un
la
mois.
Grosse, la grosse inquiétude.
Ouais.
Moi, je pense Jean-Claude. qu'on n'est pas sorti de la crise. Hein.
Ben non.
On est en plein dedans. Le débat, je ne sais pas si ça permettra d'en sortir. Ce que j'ai pu constater, pour ce qui nous concerne, nous, mutualistes, c'est que les questions qui nous paraissent essentielles autour de l'accès aux soins, la santé, étaient complètement
absentes. Tu veux dire, complètement absentes.
C'est pour ça que notre fédération a décidé d'organiser du 4 au 8 mars au plan national toute une série de débats. Il y aura un débat par département. Mm-hmm. Pour ce qui concerne les Hautes-Alpes, ce sera le 6 mars à 18h30 à la salle Borgard à Gap. Où nous allons.
J'ai vu que tu avais déjà communiqué dessus.
Débattre des questions de santé, parce que je pense que Jean-Michel sera d'accord avec moi. Je sais qu'il a créé une maison de santé, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin,
c'est l'équivalent.
C'est l'équivalent sur Tallard, mais tous les jours me laisse à penser, toutes les informations qu'on est en train de collecter, c'est qu'on va vers des problèmes qui vont être de plus en plus graves d'accès aux soins. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus la pénurie de certains praticiens va se faire ressentir de plus en plus. Je pense par exemple les chirurgiens dentistes. Quand on discute autour de soi, on s'aperçoit des départs à la retraite qu'il va y avoir massifs de chirurgiens dentistes et qui ne seront pas remplacés.
On a fait un sujet aujourd'hui, justement jeudi, dans le journal sur ce qui se passe justement dans le 04, où il y a de plus en plus d'anciens donc, qui vont partir et de moins en moins de jeunes.
J'ai vu votre sujet, par contre je ferai une remarque sur votre sujet.
Ça y est,
parce que je suis quand même un peu l'actualité. En gros, il est dit, mais dans les Hautes-Alpes, il y a moins de problèmes.
Si, il y a un souci sur le dentiste, il y a un souci.
Ça, si. Il ne faut pas le dire comme ça.
Essentiel.
Parce que déjà, ça donne des arguments à l'Agence régionale de santé, qui en gros nous dit, dans les Hautes-Alpes, vous êtes privilégiés.
Non.
Ce qui est complètement faux.
C'est pas ça. C'est qu'il y a quand même une différence entre ce qui se passe dans le 05 et le 04. Ouais. Il y a une différence quand même.
On en est où sur le numerus clausus? Alors, parce que c'était une promesse de campagne. Et...
Ça y est. Dans le cadre du projet santé, Ma Santé en 2022. Le numerus clausus va être supprimé, sauf que même les décideurs le disent, on aura les effets dans 10 ans.
Oui, ben oui.
De la suppression du numerus clausus.
Oui, mais ce qui est grave...
Et puis il y aura un deuxième sujet, si vous le permettez, c'est que quand bien même on produirait plus de médecins généralistes, se posera quand même toujours la question de leur répartition.
Absolument.
Tout à fait.
Parce que si on produit plus et qu'on a une concentration sur les grands centres urbains... On aura les mêmes difficultés, ou dans certains quartiers qui sont totalement abandonnés, parce qu'on parle souvent des quartiers urbains, mais il y a des villes qui sont totalement abandonnées en termes de soins aussi.
Moi, je pense que la solution de supprimer le numerus clausus n'était pas la bonne solution. Il fallait tout simplement l'augmenter, déjà pour en produire plus, parce que c'est quand même un petit peu dommage aussi d'emmener des étudiants en fin de cycle et de leur faire passer l'examen final à la fin. Parce que ceux qui vont être calés, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Franchement, on verra. Tout n'est pas calé en la matière, puisque moi, j'ai vu le projet de loi et l'avant-projet de loi Ma Santé 2022. En la matière, les choses ne sont pas du tout calées. Donc, il ne faut pas faire de procès avant de voir réellement ce qui sera fait. Par contre, là où... Alors, je ne vais pas me faire des amis du côté des médecins.
Bah comme d'habitude.
Mais ce n'est pas grave. Je le dis.
Tu ne seras pas réélu, ce n'est pas grave.
Non, mais je ne suis plus candidat à rien. Mais comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, la question fondamentale, ce n'est pas le nombre, c'est la répartition. Et tant qu'on ne prendra pas des mesures draconiennes en matière de répartition des professionnels de santé dans les zones rurales, mais pas rurales, parce qu'il y a aussi des problèmes dans certains quartiers parisiens, par exemple. Tant qu'on ne prendra pas des décisions drastiques en la matière, on ne réglera pas le problème.
Alors, on a déposé... On va arrêter avec le numerus clausus, là, parce que là, sinon, on va faire deux heures dessus. Non, il y a eu les doléances, les cahiers de doléances qui ont été déposés. 1 million de contributions ont été recueillies sur le site internet donc, du Grand Débat National. Il y a les premières choses qui arrivent, et on voit notamment ce qui est plébiscité, l'arrêt des régimes spéciaux, la suppression des niches fiscales, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, ça paraît logique, le rétablissement de l'ISF, évidemment. Il plaide également pour la réduction du train de vie des élus, notamment donc, leur salaire, toucher moins d'argent, la fin des avantages pour les ex-présidents, ça aussi, ça apparaît devant. Augmentation du recours au référendum local. On va s'arrêter là-dessus. Possibilité aux citoyens de proposer ou abroger une loi par référendum. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Ou alors, est-ce que ça risque pas de créer un peu un gros bazar?
Moi, ce que je ressens en écoutant cet énoncé, c'est d'abord une sorte de malaise, parce qu'on nous explique déjà que les grandes tendances de contribution sont celles-ci. Alors que, à ce jour... les préfectures sont en train de collecter les cahiers doléances.
Là, c'est uniquement ce qui était sur le site.
Oui, d'accord.
Mais c'est une tendance.
Tendance, mais enfin, il faut attendre qu'elle soit vérifiée.
Bien sûr. Il y a
un travail important qui est fait, très matériel, confié d'ailleurs à des organismes spécialisés par l'État, ce qui nous a été expliqué par la représentante du gouvernement de l'État, Madame la préfète Bigot-Kaiser, ici. Donc, on est dans une situation où il faut attendre l'analyse. Ensuite, au-delà de l'analyse qui en sera faite, c'est savoir quelles sont les intentions du gouvernement. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est de savoir ce que va en faire Emmanuel Macron, Édouard Philippe et le gouvernement. Savent-ils où ils vont? Moi, je ne crois pas au déterminisme qu'évoquait tout à l'heure Michel Roussel. Je ne crois pas que la feuille de route soit écrite. Ils ont été totalement surpris par le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont sorti le débat public, le grand débat public, parce qu'il fallait faire baisser la pression de la cocotte minute. Et de quelle manière les légumes seront cuits à l'intérieur et quel sera le plat servi et à qui, le savent-ils eux-mêmes? Et il y a eu un phénomène de panique. Et je le ressens, y compris dans les représentants du gouvernement, des parlementaires, enfin les parlementaires du grand territoire de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y avait un phénomène de panique. Donc là, je crois qu'actuellement, on reprend un peu l'ordre. Mais que va-t-il en sortir? J'en sais rien. Parmi les ballons d'essai, un référendum avec des multi-questions. Pourquoi pas? Ce que je crois surtout, c'est que les gens... Moi, je reviens à des choses très simples. Les gens, ils veulent plus de démocratie. Encore faut-il qu'on définisse ce qu'est de la démocratie aujourd'hui. Parce que si la démocratie, c'est ce que j'ai entendu dans les rues de Paris il y a peu de temps, si la démocratie, c'est on crache sur tous les élus, sur tous les corps intermédiaires, et c'est une forme d'anarchie version 2020, je ne pense pas que ce soit la démocratie telle que, je pense, on peut se retrouver quand on est à la fois raisonnable mais aussi ambitieux pour son pays. On veut du pouvoir d'achat pour les gens qui travaillent. Je ne crois pas que ce soit remis fondamentalement en cause une forme de solidarité pour les gens qui en ont besoin, sauf qu'on est sur des concepts qui sont assez larges. Ce que les gens souhaitent aujourd'hui, c'est des choses concrètes. Pour cette raison que les maires sont d'ailleurs appréciés, c'est qu'on travaille sur le concret.
Moi, tu vois, Jean-Michel, quand j'écoute...
Appelle-moi Jean-Marie, si tu veux.
quand j'écoute les représentants du gouvernement, au plus haut niveau de l'État, il m'arrive de penser qu'ils sont en train de remettre 100 euros dans la truc chaque fois. Moi, j'ai entendu le Premier ministre qui dit qu'il faudra des contreparties pour les emplois aidés. Enfin, ils ont supprimé les emplois aidés. Maintenant, ils nous disent qu'il faut des contreparties pour ceux qui perçoivent des revenus, le RSA et compagnie.
C'est une mauvaise idée,
Mais on a l'impression d'inventer la poudre tous les matins, après avoir supprimé les emplois aidés, on remet ça. Et j'ai l'impression qu'on remet 100 euros dans la machine, quoi, pour faire remonter. Alors, est-ce qu'ils veulent vraiment faire baisser la tension dans le pays, ou est-ce qu'ils alimentent sans arrêt cette polémique,
C'est ça. Tous les modèles classiques ont explosé. À partir de l'élection présidentielle, avec la disqualification du candidat socialiste, la disqualification du candidat de droite.
Ouais.
Donc on est actuellement, c'est pour ça que l'image que j'utilisais tout à l'heure de cocotte minute me paraît la plus juste. On est dans un truc qui n'est pas stabilisé.
Et puis on est surtout dans quelque chose de complètement inédit.
Voilà, inédit, avec des violences quand même qui montent dans le pays, des violences au moins verbales, parfois physiques.
Ah oui, oui.
Et ces violences-là, il faut quand même savoir les canaliser. C'est en ce sens-là que moi je ne tape pas sur le président de la République Emmanuel Macron. Il faut plutôt l'accompagner dans cette démarche
moi,
de stabilisation.
Moi, je ne tape pas, mais...
Non, mais je ne dis pas que
je fais. Tu tapes pas. Tu peux
quand même. Mais je trouve qu'il y a un peu d'incompétence.
On doit quand même,
voilà. Je taquine.
Sortir par le haut. Donc, il faut réinventer une façon de fonctionner ensemble.
Oui.
Une façon de recréer de la politique au sens noble du terme. Et surtout, apporter des solutions aux Français. Voilà, apporter des solutions aux Français pour que le pacte républicain n'explose pas. Parce que l'étape d'après, sans être sinistre et sans être excessif, c'est quoi? C'est quelle aventure? Donc on est dans une période où, quand je dis je dois faire confiance au président de la République, oui, je ne fais pas forcément confiance à Emmanuel Macron, mais je dois faire confiance au président de la République pour qu'il apporte des solutions. En est-il capable? En a-t-il les ressources? C'est l'histoire qui le dira.
On parle beaucoup de ce référendum-là, et on parle aussi de... Oui, et on parle aussi, alors, c'est quelque chose qui est ressorti, révocation des élus par référendum. Alors, je voulais...
Non, mais ça, c'est...
Ce sont des choses qui peuvent arriver.
Enfin, moi, ce que je crois, c'est que...
Ça se fait dans certaines démocraties.
Hein. Ouais. Oui, enfin, moi, je suis contre cette idée. Parce que,
moi aussi.
Et je vais m'en expliquer en deux minutes. La révocation, c'est au moment des élections.
Oui, bah oui. Bon. Tu votes, tu votes pas, t'es élu, t'es pas élu.
Après, le temps d'aujourd'hui est probablement plus saccadé, plus rapide que par le passé. Donc, il faut probablement trouver des moyens d'avoir des respirations à l'intérieur d'un mandat de 5 ans ou de 6 ans, sous des formes à imaginer, probablement être imaginatif, mais moi je ne me vois pas en tant que maire de Tallard ou en tant qu'élu, et je n'imagine pas un élu national ou un représentant national, être déjà exposé en permanence au sondage, c'est pas évident, mais être exposé à la vindicte populaire tous les six mois.
Peut-être que Jean-Michel, en 2020, on verra, on aura occasion d'en reparler en 2020, mais peut-être qu'il faut inventer quelque chose de nouveau dans les collectivités territoriales. Le problème, c'est que c'est pas normal.
Je viens de le dire.
Oui, mais c'est pas normal qu'on soit élu pour 6 ans et puis que pendant 6 ans, une fois qu'on est élu, ben les citoyens, on s'en fout un peu. On leur demande jamais leur avis. Moi, je pense qu'à un moment, il faut que dans un mandat, il faut pratiquer. Moi, ce que j'appelais quand j'étais conseiller municipal d'opposition à Gap, la démocratie active. C'est-à-dire sur les grands projets. Bien sûr, pas les détails, mais sur les grands projets d'une collectivité territoriale, réunir les citoyens, les consulter avant de prendre une décision.
La plupart des maires le font.
Ben, il y en a beaucoup qui le font pas.
Dans tous les cas, moi, je fais 2 réunions par an.
Tant mieux, c'est bien.
J'organise des réunions de quartier. Après, il y a aussi une participation des citoyens qui est plus ou moins importante. Donc, voilà, il faut certainement réinventer d'autres formes de participation citoyenne. Ça, j'en suis convaincu.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jean-Claude. Je pense qu'il faut justement accorder un temps suffisant aux hommes politiques de 4 ou 5 ans pour mettre en place leur projet. Et ensuite, on juge. Et là où ça ne va pas, c'est que les gens, il faut qu'ils aillent voter. Et il faut aller voter. On a des taux d'abstention qui sont trop importants en France. Et c'est trop facile après de mettre un gilet, descendre dans la rue en disant « Allez, on casse tout ».
Eh bien, mettons le vote obligatoire.
Ben, pourquoi pas, mais ça se fait dans
certains pays, la Suisse.
Mais le vote obligatoire.
Dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut absolument réinventer d'autres formes de participation citoyenne. Ça, j'en suis intimement convaincu. On ne peut plus avoir des blancs-seins pendant 6 ans, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Le contrôle, il existe. Le contrôle, il est permanent quand tu es maire. C'est le contrôle.
Ça dépend de l'opposition que tu as.
Enfin, moi, excuse-moi, mais le contrôle, il est permanent.
Si tu as une opposition qui fait bien son boulot.
Pas que par l'opposition.
Mais ça joue l'opposition.
Mais il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition qui s'oppose aussi pour s'opposer. Il n'y a pas forcément de l'opposition.
Mais non, mais je sais que tu dis souvent ça. Mais moi, pour l'avoir vécu, je peux te dire qu'il y a de l'opposition, certes. C'est ce qu'aussi les médias font apparaître. Je critique pas les médias.
Mais
les médias, ils ont tendance à faire apparaître les oppositions. Mais l'opposition, c'est pas simplement la séance du conseil municipal.
Oui.
C'est le travail en commission sur les dossiers.
Au demeurant, c'est également le cas pour la majorité. C'est pas que le travail en
centenaire. Bien sûr, il y a énormément de travail qui se fait, qui n'est pas rapporté par les médias et par la presse. Et donc, moi, je suis assez positif de cet aspect-là. Mais regardez, on est à moins, j'ai pas compté, on est à combien de jours des élections européennes?
Ah ben oui, 3 mois.
C'est,
On en parle pas.
Trois mois maintenant.
On en parle pas.
Mais personne n'en parle.
Deux mois.
Hein, ouais, au mois de mai.
C'est fin mai. On va avoir une abstention qui va être phénoménale, quoi. Et on parle que des gilets jaunes et pas des
européens. Ou un vote extrémiste très fort.
Oui, oui, oui. Bon, à voir. Mais moi, je suis sûr que tu seras peut-être étonné de la participation.
Mais tant mieux.
Moi, j'espère. Franchement, j'espère.
Mais c'est ça, la démocratie. C'est une grosse participation aux élections.
J'espère. On marque une pause. On revient dans un instant pour la suite du Coq à l'âne. À tout de suite.
Du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam. Allez, on est de retour autour de la table de ce numéro 613 du Coq à l'âne. Notre invité Jean-Michel Arnaud, il y a Michel Roussel, Bruno André et Jean-Claude Hérault. Alors, Jean-Michel, je voudrais qu'on revienne sur une passe d'armes qui a eu lieu entre donc, la Solse et l'agglomération de Gap-Talard-Durance. Alors, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Il doit y avoir un triangle des Bermudes entre Talard, la Solse, les traits. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc là-bas.
Ah ouais, c'est chaud là-bas.
Hein, ah bon, c'est ouais, chaud patate. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On évite l'Ardier parce que.
Hein. Je ne comprends pas la question.
C'est quoi la question?
Le président de l'Interco, autrement dit Roger Didier, a voulu faire le point après quelques déclarations un peu virulentes du maire de la Solse, nouveau maire de la Solse, hein, au sujet des terrains de la ZAC de Grandière, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Alors, c'est quoi le sujet exactement?
Visiblement, c'est un sujet qui intéresse le nouveau maire de la Solse. Moi, ce que j'ai compris simplement, c'est que dans le cadre du transfert des compétences économiques à l'agglomération à partir des collectivités communales, des terrains qui existaient sur la zone de Grandière, qui est à la sortie de l'autoroute A51, qui sont des terrains pour certains très bien placés, déjà lotis pour d'autres, et pour une troisième catégorie, des terrains qui aujourd'hui ne sont pas lotis, a fait l'objet d'une polémique assez forte durant la campagne des élections partielles de la Solse.
Vendu pas cher et revendu très cher.
Non,
c'est
pas ça le sujet.
Ah bon.
Roger Grimaud, candidat, semblait dire, en substance, que la communauté d'agglomération avait un peu trompé la commune de la Solse et peut-être avait abusé financièrement de la commune de la Solse.
D'accord.
Donc le sujet est beaucoup plus simple. Hein. La commune de la Solse a acheté des terrains à vocation économique. Lors du transfert, ces terrains, pour certains aménagés, pour d'autres qui restent encore aménagés, ont été transférés à l'agglomération. Le compte public, donc la DFIP, trésorier local, ainsi que la collectivité, a transmis les charges foncières d'aménagement à l'agglomération, qui a intégré ces charges foncières, et avec les aménagements complémentaires faits par l'agglomération et initialement faits, a produit un prix de vente qui est de 80 euros. Entre les 15 euros de prix d'achat initial et 80 euros, un candidat a considéré qu'il y avait une marge prise et des bénéfices faits par l'agglomération
sur le dos de la Solse.
Visiblement, ce n'est pas le cas, c'est simplement...
C'est ce que expliquait Roger Didier.
Absolument, en disant que c'est le coût d'aménagement et donc c'est le prix sortant. Voilà, tout simplement.
Okay,
donc il y a une polémique pour laisser croire, grosso modo, que les intérêts de la Solse n'étaient pas bien défendus au sein de l'agglomération.
D'accord.
Puisque une partie des candidats aujourd'hui défaits, de 11 voix seulement, faisait partie de la majorité sortante de la municipalité de la Solse. Donc c'était à bon compte indiqué qu'ils étaient mauvais gestionnaires.
Ceci étant, je ne sais pas si tu as soutenu une liste.
Non.
Bon, tant mieux, mais...
c'est pas mon rôle.
Tant mieux, parce que c'est pas son rôle. Il a dit lui-même.
Mais, oui.
mais quand même, ce que je veux dire, c'est que pendant la campagne et après l'élection, des informations qui me remontent, il y a quand même une ambiance délétère entre les deux listes. C'est un peu dommage, parce que moi, il me semble...
C'est ce qui a transpiré.
Moi, je peux vous dire une chose par expérience.
Très tendu.
Les nombreuses fois où M. Grimaud a été candidat, l'ambiance a été systématiquement délétère. Je ne dis pas qu'il en est le responsable, mais il y a toujours dans tous les cas un contexte qui fait que l'ambiance est délétère.
Michel, tu la connais bien, toi, cette ambiance-là?
Oui, je l'ai connu personnellement, oui, je l'ai connu.
Parce que tu as été maire de Lettré, oui, donc tu connais le coin.
Tout à fait. Après, il faut tourner la page.
Oui.
Mais pour revenir effectivement sur cette zone, il faut savoir que cette zone, mais Jean-Michel est sûrement plus informé que moi, les achats par la commune, ça date d'une vingtaine d'années, voire plus. Elle a été en souffrance pendant des années et elle a malheureusement multiplié des mésaventures puisqu'il y a eu des investisseurs qui ont fait faux bond, etc. Mmh. Et puis, à un moment donné, c'est parti. Voilà. Sauf que c'est vrai que si ça a été acheté à 16 euros quelque il y a peut-être 20 ans, je ne sais pas, je dis des bêtises, j'en sais rien, je ne suis pas précis, et qu'aujourd'hui, effectivement, avec les aménagements, c'est vendu à 80 et quelques euros, ça se justifie. Je ne pense pas que derrière, il y ait une...
Et là, je peux vous dire que si le président de l'agglomération est intervenu aussi précisément sur ce sujet-là, c'est qu'il était nécessaire que ce soit dit. Et ouais, Roger bien. Didier l'a fait en dehors de la campagne électorale, parce qu'il est président de l'agglomération, et qu'il me semblait nécessaire qu'il prenne cette distance par rapport au combat électoral. Mais je pense que c'est important pour les solsetiers et les solsetières de savoir quand même ce qui a été dit durant la campagne, ce qui est en fait la situation, ouais. pour qu'ils puissent, dans quelques mois, juger pour partie sur ce dossier de qui avait raison et qui a dit des bêtises.
D'autant que Roger Grimaud, le nouveau maire de la Solse, va intégrer le bureau de la communauté d'agglomération.
C'est de droit.
C'est de droit, hein, de Gap-Talard du Reims. Donc, bon, voilà, ça promet peut-être quelques passes d'armes. Mais tu vois, Jean-Michel, moi, ce qui me désole en politique, c'est normal qu'il y ait le débat, mais ce qui est anormal, c'est qu'il y ait des règlements de compte personnels et qu'il y ait des problèmes personnels qui ressurgissent chaque fois qu'il y a une campagne électorale. Je dis ça parce que j'ai des informations qui me laissent à penser que c'est, quand on attaque les familles, quand on attaque les personnes, c'est pas bien, quoi. Bon, moi, j'ai subi ça, hein, puisque traité de tous les noms d'oiseaux, mais ça remonte à des années. D'un peu, il y avait les chars qui étaient à l'entrée de la Solse, d'ailleurs, les chars soviétiques. Donc, non, j'ai connu ça. Mais bon, moi, je crois
qu'il est mal informé.
Je trouve que c'est dommage
qu'il y ait
des règlements de compte.
Tu es très mal informé.
J'ai vu quelques échos quand même.
Hein. Oui, moi, j'ai vu aussi des posts sur Facebook.
Oui, ouais, qui ne sont pas très sympathiques. Et je pense qu'il y a même des élus qui auraient dû rester, faire comme Roger Didier, rester en réserve. Parce que c'est vrai que l'ambiance sur la Solse n'est pas excellente. Et qu'il y a eu il y a eu une campagne qui a été quand même pas très honnête. Et sur le problème dont tu as parlé, Thierry, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Et c'est la différence qu'il y a entre la campagne électorale et puis après, quand tu te retrouves aux affaires et que tu es confronté à la réalité des choses, c'est toujours difficile pour une équipe sortante d'afficher son bilan et de s'expliquer. C'est plus facile de dire, il y a qu'à Faucon, moi j'aurais fait, ou demain j'irai voir Roger Didier, j'irai renégocier un chèque en retour et tout. C'est très vendeur, ça. Mais quand tu es confronté à la réalité des choses, c'est beaucoup plus compliqué.
Après, il y a une ambiance qui s'est un peu dégradée durant cette campagne parce qu'il y a aussi, très clairement, des engagements publics extérieurs qui sont venus perturber un débat qui était purement municipal. Donc, à partir de là, il y a effectivement une crispation. Et la crispation aujourd'hui, que l'équipe nouvelle a été élue, évidemment, ça laisse des stigmates.
Hein, j'espère qu'ils vont travailler maintenant ensemble et qu'ils joueront le rôle normal entre majorité et opposition. C'est tout ce que j'espère parce que derrière, il y a l'intérêt des concitoyens.
Oui, enfin, dans 11 mois, il y a déjà une campagne électorale. Hein,
Donc ça rebelote dans quelques mois.
Oui, c'est une transition. Ouais.
Alors, maintenant, nous allons passer à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il va te faire plaisir, puisqu'il s'agit de Benalla.
Benalla.
Et ça faisait quand même longtemps qu'on en avait pas parlé.
Ouais. On n'a pas tout dit sur Benalla.
Non, chaque semaine, il y a la nouveauté.
Maintenant, il y a l'enquête. Il est en prison, en plus.
Vous le trouvez.
Derrière les ballots.
Il s'est passé une chose étonnante cette semaine. Alexandre Benalla a été mis sous les verrous. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel hein, pour ce mytho de la République, hein, genre de barbouze du 16e. Non, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a été envoyé sous les verrous par des juges qui ont estimé qu'il aurait rencontré donc Vincent Crass, hein, on est d'accord, alors qu'il était mis en examen et que sous contrôle judiciaire, il ne devait pas se voir. Normal. Allez hop, au newf. Oui, mais là où le bas blesse, c'est que les juges se sont appuyés sur l'enregistrement de Mediapart.
C'est pas l'enregistrement de Mediapart.
Alors, l'enregistrement
que Mediapart a rendu.
Tu me laisses pas terminer.
Tu es le seul à être abonné à Mediapart.
Tu me laisses pas. Tu me laisses pas terminer.
C'est pas une tare.
Je peux terminer.
Je suis pas du contraire.
J'avais dit que ça allait te faire plaisir.
Ah ouais.
Je termine.
Toi, tu fais une fixation.
Ah oui. Laisse-moi finir. L'enregistrement de Mediapart. Diffusé fin janvier.
Oui.
L'enregistrement, manifestement illégal. Il ne vient ni d'une écoute judiciaire, ni d'une écoute administrative. Du coup, on se retrouve avec un gars qui est en taule à cause d'un document illégal. Alors attends, hein, parce que je sais que tu vas me lancer des cailloux. Non. Alors, personnellement, Benalla sous les verrous, ça m'embouge une sans toucher l'autre, comme disait mon ami Chirac. Mais sur la forme, c'est quand même assez étonnant. D'autant plus que à dire que ce ne sont pas les griefs qui manquent sur le dossier de l'animal, parce que violence le 1er mai, faux passeport, parjure, téléphones cryptés, on ne sait pas pourquoi.
Contrat
des contrats perso avec les Russes, et j'en passe. Mais non, on l'incarcère sur une écoute illégale. Alors, voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, mais c'est comme, c'est, moi, c'est un truc qui m'a halluciné. J'ai dit, et le mec, il a fait que des conneries pendant 6 mois, et on va le mettre en tôle sur un truc où on n'est pas sûr.
Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est que depuis, il y a eu le rapport
du Sénat, bien sûr. Mais n'empêche
qui continue à charger la mule.
Mais tout à fait, je suis d'accord.
Et moi, j'ai une position très simple. J'ai toujours dit pour toutes les affaires, je fais confiance à la justice de mon pays.
Oui.
Point. J'ai rien d'autre à rajouter.
Moi, je ne fais qu'une réflexion. C'est tout. Je ne me fais que poser cette question.
Toi, tu es un après-midi à part, mais c'est ton droit.
Mais non.
Mais heureusement qu'il y a encore des médias d'investigation qui font leur boulot dans ce pays. Heureusement qu'il existe encore.
Tu as bien compris le sens de ce que je disais. J'ai dit, moi, c'est très bien qu'ils soient en tol. Mais non, justement, non, tout va pas bien. Parce qu'il y a possibilité de pouvoir le mettre en tol avec tout ce qu'il a fait comme connerie, et on le met en tol sur un truc où aujourd'hui, on ne sait pas encore. Il y a encore une enquête. Il y a une enquête de la brigade criminelle sur l'enregistrement. Donc, c'est hallucinant. Mais enfin, je trouve ça... C'est hallucinant.
Dans l'histoire, Al Capone, il n'a pas été...
Sur fraude fiscale, lui.
Sur fraude fiscale.
Oui, on est d'accord.
Ouais, mais pour rien du tout, pour une histoire d'impôts impayés ou quoi.
Oui, non, mais je ne vois pas le rapport avec Benalla.
Il en avait...
Non, mais je ne vois pas le rapport avec Benalla. Je ne vois pas le rapport avec Benalla. Non.
C'est parce qu'il a été inculpé.
Non, moi, si on me dit Benalla, il est en tôle parce qu'il a pris des passeports dont il n'avait pas...
Mais ça va venir, ça. Mais ne sois pas impatient.
Non.
Ne sois pas impatient.
Thierry, je vais t'apporter mon soutien sur la construction juridique.
Je suis très déçu que tu ne puisses pas trouver que c'est pas normal. Sur ce fait-là.
Mais moi, rien ne me laisse à penser que ces fameux enregistrements sont des enregistrements frauduleux. Rien ne me laisse à penser ça.
Mais oui, mais rien ne laisse à penser le contraire non plus.
Et tu es plus juge que les juges.
Mais pas du tout. Mais justement.
Moi, j'ai écouté hier soir l'avocate.
Ouais.
Tu vois, comme quoi j'écoute les deux parties.
Oui.
L'avocate de Benalla,
ouais,
qui était sur, je ne sais plus quelle, la 5 hier soir. Elle ne m'a pas du tout convaincu. D'ailleurs, elle n'a pas convaincu les journalistes non plus. Hein.
Je ne cherche pas.
Parce qu'en gros... Elle ne sait pas trop où ils ont été faits, ces enregistrements.
Mais
hein. On a une petite idée. Hein. D'ailleurs, elle a démissionné depuis, hein, la chef de la sécurité de Matignon.
Tu ne veux pas entendre.
Il est content du résultat. Donc.
Mais tu ne veux pas entendre le message que je fais passer. Tu ne veux pas l'entendre.
Tu veux que je te fasse plaisir.
Non. Je voudrais seulement que tu dises, oui, effectivement, Thierry, tu as raison, effectivement, c'est quand même bizarre.
Il y a Jean-Mimi qui va te soutenir.
Oui, mais non, ce n'est pas une question de soutien, c'est une question de logique,
c'est de
loi, de justice.
Il y a un point, il y a un point sur lequel il y a un doute, c'est de savoir si ces enregistrements n'ont pas été par le juge en charge du dossier considérés comme étant suffisamment solides, voire même d'autres sources qui confirment ces témoignages. C'est le seul élément qui puisse expliquer que toi tu considères comme étant un peu anormal, je suis d'accord avec toi. Parce que si on s'appuie sur des choses qui sont illégales, on peut difficilement
incarcérer quelqu'un.
Incarcérer ou dans tous les cas mettre...
Moi je reste persuadé que c'est une crapule, voilà. C'est pas le sujet,
mais
tu vois.
Mais c'est pas mon sujet.
C'est pas ça, mais c'est la manière dont on en arrive là aujourd'hui.
Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire
ça fait des mois que ça dure. C'est un truc de fou.
Sur les questions de justice, il faut toujours être très très prudent. Parce que on ne voit que les trous du drap blanc. Donc le reste, c'est le juge qui connaît son dossier.
Absolument.
Le juge ne révèle pas tout.
Ben
il peut y avoir des fuites organisées par diverses sources. Donc, il faut rester extrêmement prudent.
Voilà.
Je pense que dans ce dossier-là, si le profil de l'individu dont on vient de parler, que tout le monde connaît aujourd'hui en termes de profil...
ça, c'est sûr qu'on le connaît.
Bon, voilà, donc
on connaît même
pas. Ils ont des éléments suffisamment solides.
Ça fait 8 mois que ça dure.
Après, ce qui me choque plus, c'est ce qui s'est passé dans la journée donc, de jeudi. C'est la contestation par l'exécutif du travail fait par le Sénat.
Ça, c'est
le travail du Sénat était exemplaire. Il n'attaque pas la présidence de la République, il formule des recommandations. On oublie souvent le rôle du Parlement.
Absolument.
Le Parlement, il ne fait pas que voter la loi. Il contrôle le gouvernement.
Absolument.
Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'Élysée. Il ne contrôle pas l'Élysée.
Ouais.
Si ce n'est à travers le budget, puisque les budgets de l'Élysée sont votés par le Parlement quand même.
Mm-hmm.
Mais il fait son travail de contrôle. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un contrôle parlementaire. Puis après, au juge de se saisir,
absolument,
ou non, des conclusions en question. Il fait des recommandations, je pense que c'est un vrai sujet.
Non, mais franchement,
sur la sécurité du président, du président de la République, on a quand même un individu de type Benalla qui était identifié comme étant quelqu'un d'important
très proche,
ça laisse quand même songeur. Et vous voyez bien pourquoi c'est vraiment une affaire qui est importante du point de vue du Parlement, c'est que normalement, ce sont les forces de police ou de gendarmerie spécialisées qui sont en charge de la protection des responsables, des hauts responsables de l'État. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Voilà, c'est quelqu'un qui a un autre profil, atypique. Ça a été défendu par le gouvernement et par le président de la République comme ça dans un premier temps. Vous comprenez, l'appareil d'État n'accepte pas qu'on ait des gens atypiques qui sont dans la présidence. C'était plus qu'un gars atypique. Et le déroulé, fil par fil, de cette grosse pelote Benalla montre que c'était quand même un gars un peu atypique.
Et puis les déclarations du président de la République devant quelques parlementaires de son parti où il dit « c'est moi le responsable, si vous n'êtes pas content, venez me chercher ».
Ça, c'était il y a 8 mois. Ça.
Oui, mais d'accord. Mais quand on n'est pas sûr, parce que moi, ce qui apparaît quand même, ce matin, le président de la commission était invité de France Inter.
Je l'ai vu.
Philippe Bas,
je l'ai entendu.
Qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Ancien secrétaire général
de l'Élysée. Qui est républicain et qui n'est pas de mon parti. Hein,
ah oui, non, mais
qui est Jean-Claude. Remarquable.
Ancien secrétaire général de l'Élysée.
Oui, oui. Et qui est remarquable. Franchement, il a été d'une clarté ce matin. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Hein. Quand j'écoute ça, d'un côté, il y a des compétents, il y a des gens qu'ils connaissent l'appareil d'État, comme le président de cette commission. Et de l'autre côté, il y a des amateurs, excusez-moi, et y compris notre ancien préfet. Ça m'inquiète beaucoup.
Alors,
quoi.
Attends.
Parce que moi, j'aimais bien Patrick Strodin, j'en avais de bonnes relations. Et quand je vois qu'il apparaît avec... Moi, je l'ai écouté, ces déclarations en direct. Mais franchement... Les bras m'en tombent, quoi. Comment c'est possible, l'histoire des passeports?
Oui.
Mais c'est une histoire incroyable.
C'est pour ça que je te dis encore une fois, je ne voudrais pas que les gens imaginent que je suis là pour défendre Benalla. Je m'en secoue. C'est la manière dont ça s'est passé. Quand on voit tout ce qu'il y a derrière, tu t'es dit pourquoi? Allez, c'est comme si tu débarques dans le bureau du juge et tu dis, vous savez, en fait, Benalla, il était avec lui la dernière fois. Ah bon? Allez, hop, en tol. En gros, voilà... Moi, comment je voilà comment je résume l'affaire.
Je t'en veux pas. Tu le défends, c'est bien.
Mais non, je ne défends pas.
Il défend le principe.
Je défends pas.
Jean-Claude Hérault est dans la provocation.
Oui.
Je défends pas. Franchement, je m'en fous. Mais voilà, je me dis que c'est quand même très bizarre cette manière de fonctionner de la justice qui, au bout de 8 mois, attend un truc improbable pour le foutre sous les verrous, alors que je pense qu'il y avait certainement autre chose à faire depuis 8 mois. Mais bon, ça reste que mon avis. Alors, quid des autres, hein? Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le chef de cabinet, Patrick Strodin,
directeur de cabinet.
Décidément, les anciens préfets des Hautes-Alpes ont la vue dure. Parce que j'ai un certain Claude Guéant. Il est toujours pas en tol, lui?
Non.
Ah, mais il devrait pas tarder, quand même, parce que dites donc, lui...
Il est sous contrôle.
C'est Casserole & Co. Hein. Mais il y a aussi le chef du groupe de sécurité de la présidence, et pas n'importe qui, c'est le général Lionel Lavergne. Alors donc voilà, comme tu dis...
Il n'est pas passé dans les Hautes-Alpes, lui.
Non, il n'est pas passé dans les Hautes-Alpes.
Ça sort bien.
Non, mais et c'est terrible quand même. Voilà. Et comme tu dis, voilà, il y a 3 personnes qui sont quand même haut placées, et qu'est-ce qui va leur arriver? Parce qu'apparemment, ils ont raconté des conneries aussi.
Ben oui. Apparemment, ils n'étaient pas informés, mal informés, ou ils ont menti, je ne sais pas.
Alors, la justice française, donc... qui est pointé du doigt sur ce sujet-là, hein, qui met longtemps avant de réagir et qui réagit sur un sujet un peu improbable. Mais ce n'est pas la seule justice qui est pointée du doigt, il y a celle du Japon également qui est pointée du doigt.
Avec voilà. Carlos.
Et ouais, la Fédération internationale des droits de l'homme et le Centre pour les droits des prisonniers ont appelé mercredi le gouvernement japonais à réformer le système judiciaire dont l'affaire Ghosn a mis en lumière les défaillances. Selon ces ONG, l'ancien patron de l'alliance automobile Renault Nissan Mitsubishi Motors a été arrêté, je vous rappelle, le 19 novembre à Tokyo. Il a depuis été inculpé pour minoration de revenus déclarés aux autorités boursières et abus de confiance. Le refus du droit à l'assistance d'un avocat pendant les interrogatoires, sa détention prolongée avant inculpation et les conditions d'emprisonnement exposent certaines défaillances graves qui caractérisent le système judiciaire japonais depuis trop longtemps. Voilà ce que dit un peu cette ONG. Alors là aussi c'est pareil, on va dire mais attends, il a détourné de l'argent, c'est bien fait pour lui. Mais il faut une justice quand même, on est d'accord ou pas?
On est d'accord. Mais le Japon, c'est pas la France.
Ah hein. Non.
En matière de démocratie.
Je rebondis parce que je me dis que c'est quand même, on a quand même des justices qui sont comme à géométrie variable, comme on dit.
Oui, à géométrie variable. Puis après, bon, c'est complexe tous ces dossiers. Hein. Moi, j'aime bien Dupont-Moretti. Il est fort en gueule, c'est un comédien,
oui, c'est vrai,
etc.
Oui.
Mais ceux qui croient en leur justice, dit-il, la justice d'un pays, c'est qu'ils n'ont jamais eu affaire à elle.
Oui.
Et c'est ce qu'il dit, il est avocat, pénaliste.
Parfaitement raison.
Donc, à un moment ou un autre, quand vous entrez dans la seringue, pour en sortir, c'est très compliqué. Donc, je ne dis pas ça pour dédouaner qui que ce soit de ses responsabilités ou les deux exemples qu'on vient de donner, je détache. Mais c'est hyper complexe parce que vous avez des magistrats qui sont tous différents, qui ont tous leur parcours de vie, qui ont des engagements qui sont forts, moins forts, des formations qui sont plus fines ou moins fines. Et puis, on est quand même dans une société qui est encore une société latine en termes de droit, qui devient de plus en plus anglo-saxonne, avec une judiciarisation de tous les instants, dans tous les actes de la vie, qu'on soit journaliste, qu'on soit agriculteur, qu'on soit élu, qu'on soit syndicaliste, à tout moment, homme, femme, on peut voir sa situation exposée à un recours. C'est devenu, ça reste de l'humain, quoi. C'est une science humaine, le droit. Oui. Donc on est forcément sur quelque chose qui n'est pas aussi rationnel, aussi scientifique que peut être une science dite exacte. Donc je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup de précautions. Et si j'avais un conseil à donner à des tout auditeurs, c'est...
Ne vous faites pas choper au Japon.
Non, c'est pas ça. C'est que si vous êtes un jour attaqué, ou pas d'ailleurs, mais que vous êtes confronté à une situation de droit, faites appel à des spécialistes, absolument, et à des professionnels.
Ouais, exactement.
Parce que vous savez, quand vous entrez dans la seringue, vous ne savez pas comment vous en sortez.
Il y a des exemples des maires, pas très loin d'ici, qui ont été condamnés
sur des appels d'offres. Sur les Hautes-Alpes,
sur des appels d'offres. Et je sais que toi, tu leur rappelles souvent de faire appel à l'Association des maires de France.
Bien sûr.
Parce que vous avez des avocats qui vous suivent.
Mais c'est vrai pour toutes les choses de la vie aujourd'hui.
Parce que
on est dans une société qui s'américanise de ce point de vue-là. Il faut faire attention.
Michel ?
Oui, ça a été dit. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu rentres dans le système de la justice, tu rencontres l'avocat, bonjour monsieur, ça va bien, vous avez raison. Quand tu arrives dans l'enceinte, procès, c'est jamais gagné.
C'est une essoreuse, quoi.
Et à la sortie, effectivement, eh bien, d'une vérité, ça, on en fait un mensonge, d'un mensonge, on fait une vérité. C'est vrai que la meilleure des solutions, c'est de, tant qu'on peut s'arranger les uns les autres...
Sans passer par le...
Je vais donner un exemple.
Tout à fait.
Extérieur au département. Qui a entendu que Jean-François Copé avait été lavé de tout soupçon sur l'affaire Big Malion ?
Personne.
Qui se souvient de la boue jetée sur cet homme-là, au moment où il a été mis en examen, il a été inculpé.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Donc, vous pouvez... Et sa carrière politique, elle est derrière lui aujourd'hui. On voit très bien quand même la difficulté... Est-ce que vous avez en tête un comédien cette semaine, j'oublie son nom, Covert, un truc comme ça, qui avait été accusé de viol par une ancienne campagne.
Il a été blanchi.
Il a été totalement blanchi.
Ouais, ouais.
Je dirais, dans ce genre de situation, je ne suis pas en train de dire que les victimes sont des bourreaux, les bourreaux sont des victimes, pas du tout mon propos. Je dis simplement que sur ces questions-là, notamment quand on est des commentateurs, a fortiori quand on est des acteurs publics, je suis extrêmement prudent. Sur tous les commentaires liés à des...
Et surtout l'hyper-médiatisation.
Mais ça,
avec les chaînes d'infos en continu, je te dis pas s'il y a un mec qui est accusé d'avoir violé ou tenté de violer sa secrétaire, s'il s'est mis sur la place publique, même si le mec il a rien fait, il peut se défendre.
Inversement, il y a aussi des dénonciations qui sont tout à fait justifiées, pour rééquilibrer un peu le propos.
Oui. Après, bien sûr. Oui.
Donc on a aussi des femmes qui ont subi pendant des années des violences... Oui. Réel d'hommes dominants dans tous les sens du terme, socialement en particulier, bon, qui ont besoin de la parole. Donc c'est tout le sujet qui est complexe. Et ce sujet complexe, on ne peut pas le travailler ni dans les réseaux sociaux, ni sur les réseaux sociaux, ni par des commentaires un peu légers, parce qu'on brise des hommes et des femmes.
C'est pour ça que la seule solution qu'on a, c'est de faire confiance à la justice de notre pays. On n'a pas d'autre solution. Parce que dans la justice de notre pays, on peut être défendu, on peut prendre des avocats, on peut se faire défendre et être défendu. Voilà, on est dans une république, une démocratie. Il faut respecter...
Et qui est finalement pas si mauvaise que ça, parce que notre justice, malgré tout, elle peut faire des erreurs, mais elle laisse quand même la place à la présomption d'innocence, à la défense et autres. Chose qui n'est peut-être pas vraie au Japon. Notre système n'est pas si mauvais que ça. Il faut éviter de casser le thermomètre, parce que ça ne va pas faire baisser la température.
Je défends quand même les magistrats, la magistrature française, parce que quand on compare... le nombre de magistrats pour traiter les affaires correspondant à 5000 habitants, on a grosso modo 2 à 3 mois de magistrats et de juges pour faire ce travail-là. Et là, je ne parle que des juges, je ne parle pas des greffiers, etc., qui font un travail de préparation de la décision, où on est de toute façon sous-doté. Donc, soit on se dit, c'est important, ça peut briser des gens, ça peut aussi permettre à des gens de survivre aussi à des actes odieux ou à des situations dont ils ont été les victimes. Et il faut se donner les moyens pour une justice qui fonctionne mieux, avec des juges qui ont le temps aussi de se pencher sur les dossiers, de prendre du temps sur l'investigation quand c'est nécessaire, en lien avec les auxiliaires de justice que sont les gendarmes et les policiers. Mais c'est un vrai sujet. Et je pense que ce sujet-là, il n'est pas très médiatique à travers quelques affaires, mais sur le fond, je pense qu'il y aurait un vrai travail de régénérescence de la justice française et de leur donner des moyens pour fonctionner, pour mieux nous protéger et faire de bons jugements.
Et c'est sur ces bonnes paroles que l'on termine cette émission. Merci, merci. Jean-Michel Arnaud, merci Michel Roussel, Bruno André, Jean-Claude Hérault. On se souhaite un bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Alors dimanche prochain, en direct de Briançon, de la taverne de Jean-Michel Tirole, nous serons avec Nicolas Busca. C'est le boss de l'entreprise Resalpe, donc à Briançon. Rendez-vous dimanche prochain. Passez un bon dimanche et bonne semaine.